Chers amis, bienvenue. Merci à Marc pour ce premier temps de louange et d'adoration. Oui, frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à être conscients de la grâce de notre Dieu envers nous et à vivre continuellement, jour après jour, dans cette grâce. Et pour cela, je prends l'exemple de David. Je suis en train de voir avec vous quelques faits de la vie de David, le grand roi d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 16, on avait vu comment Dieu l'avait appelé et comment Dieu l'a choisi pour cette fonction. Au chapitre 17, il y a eu cette victoire contre Goliath. Et puis, la fois dernière, nous avons vu dans 2 Samuel chapitre 6 que David, voulant ramener l'arche à Jérusalem, n'a pas respecté les règles que Dieu lui avait données. Et le Seigneur a frappé cet homme, Uzza, qui a voulu tenir l'arche alors qu'il n'était pas permis de le faire. Et David, après 3 mois, il est retourné dans la parole et il a vu comment le Seigneur voulait que les choses se passent. Et il a fait entrer l'arche à Jérusalem et tout s'est passé dans la joie et le peuple a été richement béni. J'aimerais aujourd'hui voir un autre événement de la vie de David. C'est comment il a conscient de la grâce de Dieu envers lui, maintenant qu'il est roi d'Israël, conscient de cette grâce, comment il va manifester cette grâce vis-à-vis de son prochain, et notamment vis-à-vis de l'un des fils de Jonathan, Mephibosheth, et voir que pour nous, le Seigneur qui nous fait grâce aussi, comment nous pouvons, jour après jour, manifester cette grâce envers notre prochain également. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble ce passage de 2 Samuel, chapitre 9. Nous allons lire ce chapitre. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth ?» Et répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour ta parole encore que tu nous donnes ce matin. Elle est riche d'enseignements. Elle veut nous instruire, elle veut nous corriger, elle veut nous enseigner. Et donc nous te prions de disposer nos cœurs pour la recevoir. Nous te bénissons, nous t'exaltons parce que nous savons que nous sommes constamment l'objet de ta grâce. Tu nous as sauvés par grâce et tu nous demandes de vivre par cette grâce. Et comme l'apôtre Paul le dit dans l'introduction de ses lettres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois loué et c'est au nom de notre Seigneur que nous prions. Amen. Voilà parler de la grâce de Dieu, de la grâce et ce qu'on ne mérite pas. C'est un bienfait qui nous est accordé alors que nous ne le méritions pas. Mais je vois aussi avec vous que la grâce est un bienfait qu'on doit accepter aussi. David est conscient qu'il est lui-même l'objet de la grâce de Dieu. Il sait d'où il vient, il sait d'où le Seigneur l'a pris, et maintenant qu'il est roi sur tout Israël, le Seigneur a aplani tout son sentier, tous ses ennemis ont été vaincus, et là, il réfléchit et dit, mais y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien? Parce qu'il avait fait cette alliance avec Jonathan, son ami, le fils de Saül, et il avait promis à Jonathan de prendre soin de ses enfants, de sa postérité après lui. Donc ça, il est dit cela dans d'autres passages. Donc David veut faire grâce aux autres parce qu'il sait, que s'il est là en tant que roi, c'est parce que Dieu a usé de grâce envers lui, que ce n'est pas par ses propres mérite. C'est vrai qu'il a combattu, mais le texte juste avant, dans 2 Samuel chapitre 8, il est souligné que c'est l'Éternel qui protégeait David partout où il allait. Donc, les victoires de David, tout ce qu'il a pu faire, c'est parce que l'Éternel était là avec lui et que l'Éternel le protégeait. Donc, il est là. Mais il n'oublie pas cette alliance qu'il avait faite avec son ami Jonathan. Donc, il veut être fidèle à sa promesse et il pose cette question, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dans le texte du chapitre 7, où il est dit que David, il veut construire une maison à l'Éternel, et il en parle au prophète Nathan. Nathan lui dit, va, fais ce que tu as dans le cœur. L'Éternel, il est avec toi. Et donc, David, lui, il a un projet, c'est construire ce temple. Et là, Dieu va lui dire, mais ce ne sera pas toi qui vas me construire ce temple, ce sera ton fils. Et donc, David va tout préparer pour cela. Mais, dans ce chapitre 7, Dieu va lui rappeler aussi d'où il l'a pris. Et c'est en cela que il est bon de nous souvenir d'où le Seigneur nous a pris et ce qu'il a fait de nous. Et David, tout en étant roi d'Israël, dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu va lui dire, je lis rapidement avec vous, 2 Samuel chapitre 7 verset 8, Dieu lui dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Donc David, lui, il dit qu'il veut construire une maison à l'Éternel, mais Dieu lui dit, c'est moi qui vais te construire une maison. Et mais le Seigneur lui rappelle d'où il a pris. Dans le chapitre 16 de 1 Samuel, David, il était là en train de s'occuper de ses brebis. Et le Seigneur l'a pris et l'a fait devenir le roi d'Israël. Donc Dieu le lui rappelle. Il est important aussi de se souvenir de cela. Et puisque c'est la connaissance de cette grâce de Dieu envers lui qui va le pousser à reconnaître sa position aussi devant Dieu. Après, il va dire des paroles de reconnaissance, des paroles d'action de grâce, quand il dit au verset 18 de 2 Samuel chapitre 7, donc au verset 17, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. » Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait-te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Donc David, là, il a entendu, Dieu le lui rappelait qu'il était le jeune berger d'où il a pris. Il est maintenant le roi. Et David, ce rappel pousse David à reconnaître sa position devant Dieu. Hein, il dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel ? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» Et cela le pousse à adorer l'Éternel pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il va faire dans les versets 22 à 29. Donc la première des choses qui m'interpelle là, la connaissance de la grâce de Dieu envers lui, le pousse non seulement à reconnaître sa position vis-à-vis de Dieu, de dire voilà, si je suis là, c'est parce que Dieu m'a mis là. Si Dieu a usé de grâce envers moi, et ça le pousse aussi à adorer le Dieu, l'Éternel, pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Mais l'autre chose, donc ça c'est dans sa relation avec Dieu, mais la connaissance de la grâce de Dieu envers lui, le pousse à prendre l'initiative pour pouvoir faire du bien aux autres. Et dans ce chapitre 9 que nous avons lu, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre l'initiative de vouloir faire du bien. Il dit, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Au verset 3, il dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de David pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? C'est ce qui l'anime là. Il sait qu'il est l'objet de la grâce de Dieu. Maintenant, comment user de grâce envers les autres et même envers les enfants de son ennemi, Saül. Mais il est fidèle à cette promesse qu'il avait faite à Jonathan, son ami. Donc c'est lui qui va prendre l'initiative d'aller et de vouloir faire du bien à son prochain. Et lorsqu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu, ça doit aussi être... pour nous une conduite à avoir, vouloir prendre l'initiative de vouloir faire du bien à son prochain. L'autre chose, c'est que cette connaissance de la grâce de Dieu le pousse à regarder son prochain, non pas avec le regard, je dirais, purement, un regard purement humain, mais regarder l'autre avec le regard de Dieu. Tiba, on lui en fait venir ce serviteur, Tiba, et il pose la question à Tiba, il dit, mais y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Et là, remarquez avec moi que Tiba, il répond au verset 3, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Il aurait pu juste dire, Jonathan, il a un fils, et puis terminé. Mais il souligne que Jonathan, il est perclus des pieds, pour souligner toute la bassesse de cet homme. Mais David, lui, il ne regarde pas au fait que Jonathan soit perclus des pieds, que Jonathan soit infirme, qu'il soit boiteux des deux pieds. Pour David, ce n'était pas ce qui était important. Ce qui était important, c'était que Mephibosheth, le fils de son ami, de Jonathan, était là et qu'il voulait être fidèle vis-à-vis de son engagement et faire du bien, user de la bonté de Dieu envers cet homme, qu'il soit boiteux ou pas, ce n'était pas là la question. Et David, là, il a ce regard qui est différent par rapport à Tsiba, qui souligne cette infirmité. Mais lui, David, il ne voit pas l'infirmité, il ne voit pas la condition de Mephibosheth, il voit seulement un homme en qui il veut manifester cette grâce. L'autre chose, c'est que David, donc, il va prendre Mephibosheth, il va bénir Mephibosheth, il va lui dire, je vais te rendre toutes les terres de Saül, ton père, je vais t'accueillir à ma table, je vais te donner des serviteurs, Tiba, tous ses fils, ses serviteurs seront à ton service, et encore plus, je veux aussi te considérer comme l'un de mes fils, et tu seras accueilli constamment à ma table, et Mephibosheth va venir habiter à Jérusalem. Quelle grâce pour Mephibosheth qui n'avait plus d'espérance. Il était non seulement dans sa condition, mais il était éloigné de Jérusalem. Il était dans un coin perdu. Et on vient le chercher, on vient le ramener. Et on lui dit, alors que tu étais au plus bas, le roi David va l'élever. Il va lui dire, tu seras à ma table et tu seras comme l'un de mes fils. Nous pouvons, je pense, facilement faire ce parallèle entre la situation de Mephibosheth et nous. Ce Mephibosheth qui était loin du roi David, qui habitait à Lodebar, et David qui va aller le chercher, qui va envoyer ses serviteurs pour le chercher. Et nous aussi qui étions loin du Seigneur, loin du roi des rois, dans Éphésiens, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là étrangers, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà quelle était notre condition. Et l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens, souvenez-vous. C'est pour ça que Dieu, il rappelle à David aussi, souviens-toi, je t'ai pris derrière les pâturages. Souviens-toi. Oh, combien nous sommes oublieux, n'est-ce pas? On oublie d'où le Seigneur nous a pris. On oublie combien nous étions tellement loin de lui dans nos péchés. Nous étions tellement loin dans une vie complètement dissolue. Et Dieu, combien il est allé, il est venu nous chercher là où nous étions. En tant que petit-fils de Saül, il était donc considéré comme un ennemi du roi. Dans ces temps-là, lorsque il y avait un nouveau qui prenait la place, il exterminait les autres pour qu'il n'y ait pas de rébellion. Mais David, lui, il ne raisonne pas comme ça. Mephibosheth pourrait être considéré comme un ennemi de David, mais à cause de l'alliance que David avait faite avec Jonathan, il y a eu cette réconciliation. Il n'était plus vu comme un ennemi, mais il était vu comme un fils. Et Dieu aussi, c'est ce qu'il a fait avec nous. Nous avons été réconciliés avec Dieu alors que nous étions ennemis, il dit, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, dans Romains chapitre 5, verset 10. Il était infirme, mais David n'a pas jeté ce regard méprisant sur sa condition. Donc Dieu aussi, il a eu pitié de nous, il n'a pas eu un regard méprisant par rapport à notre situation, notre condition physique, notre condition spirituelle. Il a vu que nous étions morts, c'est vrai, mais il nous a aimés. Et parce qu'il nous a tant aimés, il a envoyé son Fils Jésus pour que nous puissions être sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ, en venant, il a pris nos infirmités, il est dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et il nous a accueillis. David envoya chercher Mephibosheth au verset 5. Et Dieu, il a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils Jésus sur cette terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est ce que Dieu il a fait pour nous. Jésus-Christ est venu, le Père l'a envoyé, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, il a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils pour venir nous chercher là où nous étions. Mais la grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas, mais aussi la grâce, c'est un don qu'on accepte. Mephibosheth a accepté l'invitation du roi et est venu auprès de lui. Au verset 6, Mephibosheth, il est venu. Il a accepté cette invitation. Il aurait pu dire non, je préfère rester là où je suis. Mephibosheth a accepté cette invitation. Et lorsque nous avons entendu l'appel de Dieu à venir à lui, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons accepté aussi cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons accepté cette invitation à venir au pied du Seigneur, à reconnaître que c'est lui dont on a besoin. Et lorsque Dieu nous adresse constamment cette invitation, encore aujourd'hui, vous qui n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous restez dans votre état perdu, soit vous restez dans votre état, il est considéré comme un chien mort, donc il était au plus bas. Mephibosheth dit, je suis qu'un chien mort. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et c'est là aussi, lorsqu'on vient à Jésus, on reconnaît nous ne sommes qu'un chien mort. Un terme pour souligner toute son humilité, pour dire, voilà, moi je ne suis rien. Et parfois les gens, ils refusent l'invitation que Dieu leur adresse parce qu'ils ne se considèrent pas comme un chien mort. Il dit, mais non, moi j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Non, mais en fait, Dieu nous veut user de grâce, il use de grâce envers nous, et il nous dit, viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un chien mort, je ne mérite rien, je suis perdu, j'ai besoin de toi. Et on accepte cette invitation, et on vient au pied du roi, et on lui dit, oui, je reconnais que je suis un chien mort, j'ai besoin de toi. Et Mephibosheth, c'est ce qu'il a fait. Il a accepté l'offre du roi, tout comme nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous avons accepté cette offre. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est soit accepter le salaire du péché, ou soit accepter le don gratuit de Dieu. Soit dire, voilà, je préfère rester dans mon l'eau de barre, dans mon lieu perdu, désertique, dans ma situation, ou soit, je veux dire, j'accepte cette invitation à venir à Jérusalem avec le roi qui m'invite à sa table. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a raconté une parabole de, justement, de grand repas, de ce maître qui avait invité les gens, les Israélites, à un grand repas. Et lorsque le repas était prêt, il envoie ses serviteurs pour dire à ceux à qui il avait invité, il leur dit, allez, appelez-les, dis-leur que le repas est prêt, ils peuvent venir. Et lorsque le serviteur est allé, il est allé voir les uns et les autres, et chacun a donné des excuses. Ah, moi je dois m'occuper des bœufs, moi je dois m'occuper de ceci, moi je viens de me marier. Et ils ne sont pas allés. J'aimerais bien qu'on lise ce passage dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Luc chapitre 14, donc le Seigneur Jésus, il est invité à un repas, et c'est dans ce contexte qu'il raconte cette histoire. Il dit au verset 15, Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés. » Les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. C'est ça la question, est-ce que vous allez goûter ce repas ou pas? Sachez que le Seigneur vous y invite. La question c'est, est-ce que vous allez trouver des excuses? Est-ce que vous allez trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter cette invitation à venir à ce grand repas? Quoi qu'il en soit, si vous ne l'acceptez pas, tant pis pour vous. D'autres vont l'accepter. Mais vous êtes au bénéfice de la grâce de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à ce repas. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, est-ce que tu seras le bienvenu dans ma maison? Tu pourras prendre ce repas avec moi. Nous avons pris le pain et la coupe qui est le repas du Seigneur. C'est une grâce de prendre ce repas. Pourquoi vous ne le prenez pas? C'est parce que vous refusez encore cette invitation. C'est parce que vous estimez peut-être trop grand, peut-être trop ceci, ou vous trouvez toutes sortes d'excuses pour dire « je ne veux pas de ce repas ». Mephibosheth, lui, il a accepté l'invitation du roi David et il est venu habiter à Jérusalem. Dieu nous invite, frères et sœurs, chers amis, à manger à sa table tous les jours, au verset 7. David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et c'est ce qui s'est passé. Verset 13, Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Et il était boiteux des deux pieds. Vous savez, le Seigneur nous invite chaque jour à sa table. À chaque fois que nous pouvons nous trouver dans la présence du Seigneur pour lire sa parole, nous mangeons la nourriture qu'il a prévue pour nous. Lorsque nous prenons le temps de nous asseoir et lire sa parole, nous nous nourrissons du repas que le Seigneur a préparé pour nous. Le Seigneur, il a dit, lorsqu'il a été tenté, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Cette nourriture, Dieu l'a préparée pour nous. Est-ce que nous acceptons cette invitation? Est-ce que nous prenons le temps de venir, de nous asseoir et de délecter ce qu'il a préparé pour nous? Ou est-ce que nous négligeons, là aussi, cela? La semaine passe, la Bible reste fermée, et on vient le dimanche, et après c'est fini. Ce repas que le Seigneur nous invite constamment, est-ce que nous y prenons part? Est-ce que nous venons? Est-ce que nous bénéficions de cela? Nous faisons des annonces, nous disons qu'il y a les études bibliques le mercredi soir. Est-ce que c'est une invitation que nous vous adressons pour vous dire qu'il y a une nourriture qui est préparée aussi pour vous? Est-ce que, comme ces invités, nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller et ne pas venir bénéficier de cela? Ce que je dis, je sais très bien qu'il y a certains qui, effectivement, ne peuvent pas venir. Mais la majorité, ce n'est pas le cas. Et pour la majorité, ce n'est pas le cas. Et nous négligeons ces moments où nous ne nous nourrissons pas de ce que Dieu a préparé pour nous. Négliger la lecture, l'étude de la parole, négliger les réunions de la semaine, c'est dire à Dieu qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'asseoir à la table du roi des rois pour manger les mets que lui-même a préparés. Et ça, c'est triste. Parce que si nous ne nous nourrissons pas du repas que le Seigneur a préparé pour nous, alors nous ne grandissons pas. Nous ne grandissons pas. L'apôtre Paul était conscient de la grâce de Dieu envers lui. Cette grâce qui a été source de motivation dans son service pour Dieu. Cette grâce qui a été source de motivation dans l'acceptation de sa situation lorsqu'il était éprouvé, lorsqu'il a reçu cette écharde dans la chair. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il a dit, donc je me plais dans mes faiblesses, dans mes tribulations, etc. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a vu la nécessité de s'appuyer sur la grâce du Seigneur que le Seigneur lui donnait chaque jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour parler de son service, pourquoi il sert le Seigneur? Parce qu'il ne voulait pas que la grâce de Dieu envers lui, il dit, la grâce du Seigneur ne sera pas vaine. Il savait, il dit, le Seigneur, après la résurrection, il a apparu aux apôtres et à lui, comme à l'avorton, parce qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre, parce qu'il a persécuté l'Église. Mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Je travaille plus que tous, il dit. C'était ça sa motivation. De savoir que Dieu a usé de grâce envers lui, lui qui a persécuté l'Église. Et ça l'a poussé à servir, à même travailler plus que les autres. Il ne regardait pas. Qu'est-ce qui nous motive, frères et sœurs, dans notre service pour Dieu, dans ce que nous faisons? N'est-ce pas la grâce de Dieu envers nous? parce que nous savons qu'il nous a sauvés, nous savons d'où il nous a pris, nous savons quelle espérance qu'il nous donne, quel avenir qu'il nous donne. Et ça ne nous motive pas dans notre service pour Dieu? Ou est-ce que nous négligeons là encore ces choses qui sont si importantes? L'apôtre Paul il dit dans 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Donc, aujourd'hui est encore jour de grâce. Donc, ne recevons pas, frères et sœurs, chers amis, la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui est le jour de salut. Donc, ne recevez pas la grâce de notre Seigneur en vain. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Acceptons son invitation à entrer dans son royaume en mettant notre confiance en Jésus-Christ, son Fils. Acceptons son invitation à manger à sa table chaque jour en donnant la première place à la parole de notre Dieu dans nos vies. Soyons reconnaissants pour tous les biens matériels qu'il nous donne, mais que ces biens ne prennent pas la place de Dieu dans nos vies. Et Mephibosheth, David lui a tout donné, mais après il y a d'autres événements. David sera pourchassé par son fils, il va prendre la fuite, et puis Tiba va raconter un peu n'importe quoi à David. David, ne sachant pas qui croire, il va dire à Mephibosheth finalement, donc les terres que je t'ai données, tu vas le partager avec Siba. Et Mephibosheth, qu'est-ce qu'il dit ? Dans 2 Samuel chapitre 19, il dit toi, qu'ils prennent tout. David, il dit à David, voilà, que Tsiba prenne tout. Donc le cœur de Mephibosheth n'était pas attaché à toutes ces choses matérielles qu'il avait reçues par grâce. Il dit que Tsiba prenne tout. Et nous avons aussi besoin de nous détacher de ces choses matérielles qui nous empêchent de considérer les choses spirituelles qui sont beaucoup plus importantes. Soyons dignes de notre nouvelle position devant Dieu. Nous sommes fils de Dieu, la Bible nous dit, dans Galates. Donc Mephibosheth, lui, était considéré au même titre que Salomon, qu'Absalom et les autres enfants de David. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 4 que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions donc l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, puisque nous sommes fils de Dieu, vivons comme a vécu le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc vivre dans la grâce de Dieu, c'est chercher à vivre comme Jésus-Christ a lui-même vécu. Jésus était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce, il est dit devant Dieu et devant les hommes. Et tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et l'apôtre Paul nous dit à Éphésiens que qui sort de notre bouche que les paroles de grâce. Donc et là aussi nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour cela. Donc acceptez la grâce de Dieu qui l'offre encore aujourd'hui gratuitement. Nous sommes encouragés à vivre de la grâce jour après jour. à offrir la grâce aux autres à cause de la connaissance que nous avons de la grâce de Dieu envers nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous accompagne encore durant cette année, que nous puissions être conscients de la grâce de Dieu envers nous chaque jour et que nous puissions manifester cette grâce dans notre vie de chaque jour, mais aussi dans le service que nous faisons pour Dieu et dans notre façon de l'honorer et de le glorifier.